Lecture du livre de l'Exode. À chaque étape, pendant la marche du peuple vers la terre promise, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre. Et tout homme qui voulait consulter le Seigneur devait sortir du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le monde se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il fût entré. Au moment où Moïse entrait, la colonne de nuée descendait, se posait à l'entrée de la tente. Et Dieu s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui restait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur s'entretenait avec Moïse face à face, comme on s'entretient d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Noun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Un jour, Moïse dit au Seigneur, « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Dieu répondit, « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur et je prononcerai devant toi mon nom qui est Yahvé, le Seigneur. » Je fais grâce à qui je veux.
Alors, quand, quand on voit Yod, Aleph, Vav, le papa demandait qu'on ne dise plus Yod. Et donc, on dit Ou alors, tu mets
Alors, Dieu répondit, je vais passer devant toi avec toute ma splendeur, et je prononcerai devant toi mon nom qui est Yéhovah.
Yéhovah.
Donc, le Seigneur, je fais grâce à qui je veux. Je montre ma tendresse à qui je veux. Il dit encore, tu ne pourras pas voir mon visage, car on ne peut pas me voir sans mourir. Le Seigneur ajouta, voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main. Et tu me verras le dos. Mais mon visage, personne ne peut le voir. Moïse tailla de nouveau deux tables de pierre. Il se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama
Yéhovah,
le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer. Car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Aussitôt Moïse se prosterna jusqu'à terre et il dit, « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les clauses de l'Alliance, les 10 commandements. Parole du Seigneur.
Rendons grâce à Dieu.
Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël et aux fils. La colère est pleine d'amour, il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches.
Dieu tendresse, Dieu pitié.
Il n'agit envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
Dieu de tendresse, Dieu de pitié.
Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils. La tendresse du Seigneur pour qui le craint.
Dieu de tendresse, Dieu de pitié.
Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit. Alléluia, heureux, heureux qui la fait fructifier. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre l'Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchent et lui disent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Jésus leur répond, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, le bon grain. Ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui la semait, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. de même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende, acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Que ton évangile, Seigneur, répande en huile nouvelle sur toute l'ordre de la terre, pénétrant en toutes les âmes assoiffées de perfection céleste éternelle. Qu'elle ouvre en eux la bénédiction qui fera voir s'ouvrir sous leurs yeux dès cette terre les portes de la Jérusalem d'en haut.
Louange à toi,
alléluia.
Louange à toi,
alléluia.
Louange à toi, alléluia.
Aujourd'hui, c'est un Pierre Chrysologue. Saint Pierre Chrysologue, c'est un petit peu là. C'est toutes ces époques glorieuses du christianisme du 5e siècle. Il était l'apôtre de Ravenne. Enfin, Ravenne, vous voyez, quand vous prenez l'Italie. Ravenne, c'est sur le côté est, sur l'Adriatique. Les mosaïques de Ravenne. Extraordinaire mosaïque de Ravenne. Quand M. Mémanaz, le nez de Rocha, est allé à Ravenne, il a vu le mosaïque de Ravenne. C'était tellement extraordinaire pour lui, ça lui a fait une commotion. Alors du coup, il a dit, il faut que j'en fasse un parfum. Et il a créé Byzance. Et la beauté et la splendeur de la lumière de la création des hommes rassemblent les éléments à l'intérieur du feu du souffle de celui qui du haut coup le crée en odeur, en parfum. Et il y a une harmonie entre les éléments et l'homme est créateur. Et Saint-Pierre Chrysologue était admirable. Très admirable. Il a toute la ville, et encore aujourd'hui, a cette espèce de... Il a laissé ce germe pour les temps futurs, et tout est admirable, tout est beau. Tout est ordonné. Il y a quelque chose de... Et puis l'Adriatique par derrière. Et c'est lui qui commente l'évangile ici. Les serviteurs disent au maître, veux-tu que nous allions enlever l'ivraie ? Un dévoué serviteur, il promet un travail sans fatigue et ne supporte pas de voir la moisson du maître se gâter peut-être avec le temps. Mais le maître, que le temps ne fatigue pas et qui peut effacer quand il le veut les dommages subis par sa moisson, il leur interdit, il leur dit non. Et la raison pour laquelle le Seigneur le leur interdit, il l'a dit aussitôt, de peur que, en enlevant le vent dit frais, on a rassié en même temps le blé. Autre était l'aspect, autre la fleur. Ce qui aujourd'hui était de l'ivraie, demain devenait du blé. Et ce qui à présent était du blé, à l'avenir se changeait en ivraie. Ainsi, celui qu'aujourd'hui on tient pour hérétique, demain devient fidèle. Et celui qui à présent est pris pour un pécheur, à l'avenir devient juste. Si la patience de Dieu ne venait pas au secours de l'ivraie, l'Église n'aurait pas Matthieu le publicain comme évangéliste. L'Église n'aurait pas Paul le persécuteur comme apôtre. Après tout, Ananie demandait à arracher le blé quand il se plaignait d'être envoyé à Saul en disant de Paul, « Seigneur, quel mal il a fait des saints celui-là. » C'est-à-dire, arrache l'ivraie. Et qu'est-ce que la brebis a à voir avec le loup? Le serviteur dévoué avec le rebelle? Ou un tel prédicateur en mission avec un persécuteur? Mais Ananie avait vu Saul, tandis que le Seigneur alors voyait Paul. Quand Ananie parlait du persécuteur, le Seigneur, lui, voyait l'apôtre. Quand c'est trop dur, il suffit de, pas besoin d'arracher, il suffit de mettre en quarantaine. Quand c'est vraiment trop dur. Quand c'est excessif. Mais quand le mal dépasse la mesure, c'est jamais excessif. Parce que la joie de notre cœur, c'est la grandeur du roi de l'univers. Et sa grandeur dépasse toute mesure. Ouais. C'est bien de faire ce que nous faisons. On se réveille la nuit, on étend les mains, on rassemble tous les éléments, on les stabilise dans le cercle insécable. Et notre parole à cet instant sur elle les établit dans le lieu où le roi fraternel de l'univers le désire. Et dans cette plongée dans la première demeure, cette plongée des éléments de l'orbe de la terre, c'est-à-dire notre humanité tout entière, dans notre nature humaine à travers nous, passe la première demeure, puis la seconde demeure, puis la troisième demeure. Nous sommes encore délivrés. Alors patience, puisque quelques minutes après, c'est la grâce de la quatrième et de la cinquième demeure. Patience. Et si nous l'avons fait simplement une fois comme ça, grâce à des paroles portées par le feu et le souffle, pas une simple lecture extérieure, comme on regarde de l'extérieur de l'ivraie, sans voir si sa fleur sera du blé, sera de l'épi ou pas, parce qu'il y a une tige semblable. Alors voilà, on passe comme ça, chaque fois une minute ou deux sur chacune de ces déploiements ou l'intervention de la grâce, dans les éléments de l'orbe de la terre et même les orbes de l'univers. À travers nous, on se laisse rafraîchir par les souffles, tempérer par les vents et par les airs aqueux, c'est-à-dire plénitude de vie, la contemplation de l'Immaculée dans notre âme. On la fait passer une minute comme ça dans la seconde demeure. Avec ses paroles, ou sans parole, mais en laissant le silence opérer son invasion, son imprégnation, puis à la cinquième demeure, laissant l'assomption. Déjà dans la septième, il y a la joie éternelle, angélique, qui descend dans l'accomplissement de la plénitude reçue. Alors après, quant à la journée, étant donné que je suis passé par tous les stades de l'oraison, de la transformation, je peux les faire dans le raccourci. Regardez, vous faites la même chose, mais en 7 secondes. Il suffit de faire 1, et c'est la première demeure. Puis vous laissez le souffle dans 2, et c'est la deuxième. Puis 3, puis 4. Mais le souffle et le feu de cette demeure, le seul fait que comme un enfant vous ait dit 1, 2, parce que le nombre porte avec lui ce qu'il a exprimé dans le germe de l'opération de votre âme, dans l'aurore du jour. Et vous donnez ainsi, et nous donnons ainsi signification sur la tige de l'épi à la moisson eucharistique. Mais celui qui ne fait pas oraison est une limace. Oui, c'est ça. Nous en faisons l'expérience. Nous sommes endormis 2 fois. L'avantage que nous avons sur ceux qui ont une vie flasque. Nous nous endormons 2 fois. Ça qui est beau. Et donc, nous demandons avec ferveur 2 fois de pouvoir pénétrer dans la deuxième demeure, demeure illuminative. La demeure illuminative fait que ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nous avons lu, par exemple, spiration passive agréée d'amour. Spiration passive agréée d'amour. Transactuelle dans l'énergie protège. De la blessure du cœur, de la poussée. J'ai entendu ça. J'ai entendu. Mais il faut aussi le voir. Sinon, je ne pourrais pas chanter « Nous avons pu, nous avons entendu. » Et pour le voir, il faut être moulé dans la deuxième demeure par notre Créateur. Et belle la deuxième demeure. On va dire, hein, je suis seulement dans la deuxième demeure. Quiconque est dans la demeure, demeure. Et aucune demeure n'est exclusive de l'autre. Alors la première demeure nous échappe par gratuité pure de Dieu, nous fait échapper à quelconque attache au péché. La seconde nous fait échapper à quelconque ombre de pensée terrestre. Alors la lumière sénatoriale de la foi est libre sous le souffle de l'esprit de sagesse, sous le souffle de l'esprit de science, sous le souffle de l'esprit de science, sous le souffle de l'esprit de science, sous le souffle de l'esprit d'intelligence, l'intelligence de transparence céleste. Et la foi donc pénètre du coup et voit l'aspiration dans l'intérieur de ce qu'elle est, en l'Immaculée Conception, déployée dans l'au-delà de la gloire de sa résurrection. Elle la voit. Ah! Quelle joie de m'être endormi ainsi deux fois. Eh bien, je connais certaines personnes qui disent, eh bien, nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a dit, eh bien, levez-vous, veillez et priez. Eh bien, qui dorment au lieu, eh bien, de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous, eh bien, nous désirons, eh bien, servir, eh bien, et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à nous, eh bien, de le faire. Oh, à t'entendre, ça paraît bien simple. Et vous voyez, c'est beau, la vie contemplative, lorsqu'elle est irriguée à l'intérieur par le souffle de la lumière surnaturelle. Un mystère. Rosaire, un mystère du Saint-Père, un mystère de doctrine, un mystère de Dieu en lui-même, ne s'appelle pas mystère parce que on sait qu'il existe, on le croit, mais qu'il est impossible à pénétrer parce qu'il est trop grand. Ça, dire que le mystère c'est ça, ça, c'est Luther qui dit ça. Et moi je lutte contre Luther. Si un jour vous avez votre ange gardien qui vous dit je m'appelle la lutte de la terre, c'est beau ça, parce que vous ne risquez pas d'être protestant. Je lutte contre Luther. Chant merveilleux de lutter contre Luther. Pourquoi? Parce que, à l'odeur de cette musique terrestre, qui est l'image de la musique céleste, s'évapore, tombe les écailles. Le Saint-Esprit envahit la lumière surnaturelle de notre foi, où déjà il n'y a plus de Dieu. Et le Saint-Esprit nous fait voir l'intérieur des mystères. Un mystère s'appelle mystère parce que justement, on peut le voir, parce qu'on peut le comprendre, parce qu'on peut le connaître, naître avec lui, parce qu'on peut le toucher, parce qu'on peut le contempler, parce qu'on peut l'assimiler, parce qu'on peut l'expérimenter et en vivre, mais on n'a jamais fini de le comprendre mieux, de le contempler mieux, de le pénétrer mieux, de l'assimiler mieux. Un peu comme dans le mariage, on n'a jamais fini de pénétrer mieux l'unité sponsale et son au-delà. Non pas que l'unité spontanée nous échappe, elle ne nous échappe pas. Elle ne nous échappe jamais. Puisqu'elle est exempte du péché originel. Elle nous est donnée. C'est à nous de la pénétrer. Telle est la troisième demeure d'ailleurs. Sainte demeure, c'est pur amour, sans séquelles irriguées directement par l'émanation du Saint-Esprit dans la chair et le sang, de ce qui n'est ni à l'un ni à l'autre, qui irrigue ainsi l'intérieur de tous les corps vivants, y compris les corps vivants glorifiés de Dieu. La troisième demeure est admirable, vous savez. Elle nous fait échapper à l'accrochage aux autres sources d'amour que cette source d'amour immaculée, donnée, incarnée, dès leur source. La femme rassale les énergies de l'homme et les fait resplendir dans le cercle des énergies de Dieu. Merci Saint-Hildegarde de nous avoir expliqué la quatrième demeure qui est cette demeure pacifique, disponibilité surnaturelle, théologale, parfaite, complète. Toutes nos puissances sont saisies par un seul amour venant de nous, par miracle, parce que j'ai demandé pardon. Des péchés du monde entier. Un seul mouvement me montre que je n'ai pas demandé pardon pour les péchés de la nature humaine entière. Dans l'incarnation de cette contrition universelle de l'Église. Si je crois que je serai sauvé uniquement en demandant pardon pour mes péchés individuels, je suis encore un... peut-être pas du blé, peut-être de l'ivraie. Patience, il faut aller jusqu'à la quatrième demeure pour trouver le bonheur de voir que non, finalement, je suis bien du blé. Il ne faut pas arracher l'ivraie. Il faut savoir, la cinquième demeure, si c'est la cinquième demeure, alors là, ne respire plus. Si Dieu nous prend et qu'on est comme ça, là, voyez, ta porte. Bouge plus. C'est plus l'absence de mouvement, c'est la présence du passage, du mouvement de Dieu qui abolit l'instant présent, qui abolit la durée, qui abolit la succession des temps, qui abolit. Et je le vois bien, qui assume et me remet, assume et me remet. Et cette expiration, cet aller-retour, ce flux et ce reflux se fait dans un seul instant, qui dure peut-être plusieurs durées de la terre, mais c'est Dieu, lui, qui le fait. Et ce raccourci rassemble tous les instants dans un seul. Dieu est passé et je ne peux pas en douter. Le ver qui se tord dans la circonvolution de la terre est devenu un papillon, parfaitement divin, une émanation, un ange entré de la paternité agréée. Ce raccourci de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est tellement extraordinaire. La sixième, la septième demeure en inspiration, agréée, active. Eh bien, c'est bien de faire ce qu'on fait la nuit parce que on passe, on voit à chaque fois la tonalité différente du 1 par rapport au 4, du 3 par rapport au 5, du 7 par rapport au 2. J'en fais l'expérience quand même à travers ces mots. Ce n'est pas le même cancer, ce n'est pas la même lèpre, ce n'est pas le même enlèvement, la malédiction de l'humanité tout entière. L'odeur est différente, Byzance. Est-ce que c'est que la septième demeure avec Saint-Barré à Kiel? Un peu de ferveur brûlante, de zèle embrasée pour vaincre la paresse spirituelle et permettre aux sept demeures de s'accomplir dans l'expérience surnaturelle de l'enfant de Dieu. Et à force, chaque nuit, de le faire, dans l'abolition des causes du mal de la terre en cette nuit, je finis par pénétrer et je sais compter jusqu'à 7. Alors, je peux chanter des mélodies. Et du coup, en tout cas, vous voyez, ça y est, génial, j'ai échappé au filet du péché. 2, génial, il n'y a que la lumière surnaturelle, je contemple les secrets de l'intérieur, de leur vivacité, leur véridité surnaturelle, quasi agréée. 3, c'est une spensalité qui m'établit dans le nid des émanations du Saint-Esprit. 4. Oh, Saint-Esprit lui-même opère. 5. La métamorphose est déjà marquée de la touche de l'instant éternel du Père. 6. Je brûle. 7. En plénitude, irréversiblement. Et à chaque fois, wow, wow, wow. Voilà comment je lutte contre Luther. Même les protestants peuvent faire ça. N'arrachez pas l'ivraie. donne la petite méthode de l'enfant. Il dit, bah, tiens, oh, je vais faire comme ça, je vais compter jusqu'à 7, ça va me prendre 14 secondes. Puis voilà. Si on s'habitue à ça, je connais quelqu'un qui s'habitue à ça, et puis. Voilà, pendant la messe, par exemple, au moment de la consécration, au moment où le prêtre dit ceci, est mon corps livré pour vous. Il a le temps de faire passer, lorsqu'il plonge dans ces paroles du prêtre qui le rassemble à l'intérieur de lui, il fait 1, 2, 3, 4, et il fait passer les 7 demeures comme ça dans le temps de la consécration et de la transubstantiation du pain. Jusqu'à l'élévation, c'est 7 déjà. Il est déjà transformé. Et il transforme le fruit de l'Eucharistie déjà dans ce qui va se produire dans la coupe. Mais celui qui ne fait pas oraison, comment peut-il pénétrer l'Eucharistie? De l'hostie et l'holocauste brûlant à mort dans le Père, de tous les êtres qu'il assume, dans la lumière. Il faut faire oraison. Il y en a un autre qui s'appelait frère Jean de la Joie, c'était génial parce qu'il se faisait ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il le faisait dans l'espace, comme il le disait lui-même, il le faisait dans l'espace d'une demi-seconde, sous l'opération de Dieu. Dieu aime bien jouer avec les enfants. Il le faisait en disant le rosaire. Je ne dis pas l'état dans lequel était frère Jean de la Joie à la fin de son rosaire. Ils sont marrants, les moines. Ils s'embêtent pas. Ils sont pas liés au temps, vous voyez. Ni au mouvement inutile. Non, ils sont. Nous avons choisi Dieu. C'est nous, les moines d'aujourd'hui. Hein? Monos, les moines. Seulement Dieu. Quand j'avais 20 ans, que j'ai fait des mauvais choix. Des mauvais choix qui signifiaient c'est pas ma vie, c'est pas seulement Dieu. Alléluia. J'ai pas fait les bons choix. Alléluia. Alléluia. Parce que comme ça, Dieu est venu en moi pour moi seul. Me prendre dans le puissant, il a laissé les 99 autres, et les noces sont pour moi. Alléluia. N'arrachez pas l'ivraie.